ORF Beat.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous. Nous nous retrouverons désormais tous les mercredis pour le club de C'est pas du vent. Les journalistes de RFI en français et en langues étrangères, et oui, nous émettons en 15 langues, viendront chaque semaine présenter les sujets environnementaux qui les ont marqués. Nous donnerons aussi la parole à des journalistes d'autres médias, bien sûr. Nous allons parler des coulisses de notre travail et prendre un peu de recul face à l'actualité qui si souvent nous oppresse. Il y aura aussi des chroniques, mais je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant. Nous sommes ravis de vous accueillir et je vous présente tout de suite nos premiers membres.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes le chef du tout nouveau service environnement de RFI. Tout d'abord, félicitations.
Merci.
9 journalistes à plein temps sur cette thématique, c'est fantastique. Je vous l'avoue, personnellement, je suis ravie. Alors, comment vous travaillez? Chacun a sa spécialité.
C'est ça, en fait, on a donc 9 journalistes, comme vous le disiez. Et ce qui est un peu nouveau à RFI, c'est qu'on a essayé d'intégrer directement des journalistes qui viennent des services, des rédactions en langue étrangère, donc en l'occurrence du chinois, mais je ne vais pas trop m'avancer puisqu'on va en reparler, du service en espagnol également, à destination de l'Amérique latine, et de l'antenne en français. Et l'idée, en fait, un peu sous-jacente, c'était de mettre un peu tous les gens qui, un peu éparpillés dans la radio, travaillaient sur les thématiques environnementales, climatiques, de biodiversité, dans la même pièce, déjà pour avoir des discussions plus riches, faire du meilleur jus de cerveau, si on peut le dire comme ça, pour qu'ensuite ça se concrétise à l'antenne avec une montée en expertise dans le suivi des dossiers et mieux traité que ça ne l'a été. On montait en puissance depuis quelques années à RFI sur cette thématique, donc l'idée c'est d'aller encore plus loin.
Alors justement, nous avons avec nous 2 journalistes de ce service environnement. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous.
Alors les auditeurs de C'est pas du vent vous connaissent bien, puisque vous faites souvent des reportages pour l'émission, rassurez-moi, ça ne va pas s'arrêter.
Ben oui, on fait partie du même service maintenant, l'environnement, ça va continuer, bien sûr.
Donc les auditeurs de C'est pas du vent vont continuer à vous entendre, et dans l'émission, et dans les journaux d'information. Avec nous aussi, Yang Mei, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la rédaction chinoise de RFI, et vous aussi, vous avez intégré le service, donc vous continuez à travailler pour les deux, finalement.
Oui, oui, c'est très très motivant, en fait. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'intégrer les services, les journalistes des services de langue, parce que aujourd'hui les enjeux sont globaux, que ce soit pour la protection de biodiversité, la lutte contre le changement climatique, contre la pollution. Tous ces sujets tous ces enjeux sont globaux et c'est important d'avoir une vision dans l'ensemble.
Et voilà pour les journalistes maison et en invité. Nous avons le plaisir cette semaine d'accueillir Laurence Caramel du Monde Afrique. Bienvenue Laurence.
Bonjour et merci de m'accueillir pour ce baptême.
Oui, voilà, c'est une première. Alors pour débuter cette émission, je vais vous demander à chacun de me dire rapidement ce qui vous a surpris dans l'actualité récemment, Laurence.
Alors surpris, peut-être pas, mais frappé, c'est le recul de l'Europe sur toutes ses ambitions environnementales. Et le dernier exemple en date étant l'incapacité des 27 à se mettre d'accord sur la loi pour la restauration des écosystèmes, qui est pourtant un des piliers pour parvenir à atteindre nos objectifs en matière de protection de la biodiversité.
Simon Rosé.
C'est en travaillant sur les vagues de chaleur, qui durent toujours d'ailleurs en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine, on le sait, hein, mais encore une fois, sur le manque de données, le manque de suivi des phénomènes climatiques et environnementaux en Afrique, notamment avec les conséquences également que ça peut avoir en termes d'alerte des populations qui n'ont pas du tout les mêmes données, les jeux de données qu'on peut avoir en Europe du Nord ou en Europe ou en Amérique du Nord.
Oui, on l'avait vu dans une étude, notamment pour la science de l'attribution, c'est difficile à cause des manques de données sur le continent africain d'attribuer des événements au changement climatique. Yang Mei ?
Oui, alors moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est ce que j'ai appris au sujet d'une recette pour la fabrication d'une pâte gélatineuse à base de peaux d'âne. L'Union africaine avait interdit l'exportation des ânes vers la Chine au mois dernier. J'ai découvert sur un site très populaire en Chine un article révélant la vraie recette de cette pâte gélatineuse fabriquée à partir des peaux d'âne. Mais en fait, l'article dit que depuis le début, cette pâte est fabriquée à partir des peaux de bœuf. L'argumentaire de vente qui est souvent cité par les promoteurs de cette pâte, que un livre ancien médicinal chinois qui date d'il y a 1400 ans, sur lequel est marqué que la pâte existe déjà, mais sauf qu'en tournant la page, on découvre la vraie recette et à base de peau de bœuf. Personne n'a eu la curiosité de tourner la page.
Évidemment. Voilà, et cela crée du trafic, évidemment, entre l'Afrique et la Chine pour ces pauvres ânes dans des quantités...
Oui, 4 millions d'ânes importés chaque année.
Igor Strauss.
Alors moi, c'est grâce à la nouvelle chronique environnement, j'ai appris une notion, la biogéographie. Figurez-vous que c'est l'étude de la répartition des végétaux sur Terre. Et comme le climat change, eh bien, cette répartition va changer. Et quand il y aura bien des vignes en Normandie et des oliviers au Danemark, on sera tous étonnés, je pense.
Et du champagne en Angleterre. Allez, rentrons maintenant un peu plus dans le cœur des sujets.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous en avons parlé sur RFI. En Afrique australe, les pluies s'étalent normalement de novembre à avril. Mais cette année, le mois de février a été totalement sec et la sécheresse fait des ravages. Laurence Caramel, pour Le Monde Afrique, vous vous êtes intéressée à la situation en Zambie.
Oui, la Zambie, c'est un pays dont on parle peu sur vos ondes et dans mes colonnes, mais c'est pour moi un exemple d'un pays qui nous montre la puissance de déstabilisation du changement climatique d'ores et déjà, aujourd'hui. Donc la Zambie s'est déclarée en catastrophe naturelle il y a à la fin du mois de février, parce que la sécheresse qui sévit a mis à sec les barrages donc, qui ont été construits sur le fleuve Zambèze. Et non seulement cette sécheresse a des conséquences sur la production d'électricité dans le pays, donc l'électricité a été coupée, et elle a également des conséquences sur l'agriculture, puisque la moitié des surfaces qui avaient été donc ensemencées en maïs, qui est donc la nourriture de base de la population, sont considérées comme détruites. Et ce pays est par ailleurs en faillite. Il a été, depuis 3 ans, il est dans une phase de renégociation de sa dette, et donc il est totalement démuni financièrement pour faire face à cette situation.
Alors la Zambie, c'est un pays enclavé hein, de 20 millions d'habitants, grand comme une fois et demie la France. Et donc, vous le disiez, l'un des problèmes de ce pays, c'est qu'il dépend entièrement de centrales hydroélectriques. D'autres pays sont dans ce cas-là, mais là, la situation forcément est dramatique.
80% de l'électricité en Zambie est produite à partir de l'hydroélectricité, comme les pays voisins hein, qui subissent aussi des problèmes d'approvisionnement. Mais on voit bien que le changement climatique déstabilise complètement l'économie de ce pays, puisque, tout simplement un exemple, la Zambie est le deuxième producteur de cuivre sur le continent. Or, la production de cuivre est handicapée, est entravée par cette absence d'électricité. Donc, il y a une série, je dirais, de conséquences en chaîne pour ce pays qui appartient aux pays les moins avancés, qui pourraient compter, donc il y a des besoins de développement immenses, et qui se voient juste empêchés de se développer.
Alors comment est-ce que vous travaillez sur un sujet comme celui-ci depuis Paris ?
Alors ça n'est pas simple, la Zambie étant une zone anglophone, donc le monde n'est pas, contrairement à la réception que nous pouvons avoir en Afrique francophone, un média qui est forcément connu, donc il est difficile d'atteindre des interlocuteurs, mais la Zambie a occupé au cours des 2 dernières années la présidence hein, des négociateurs africains dans les conventions climat, et donc j'ai pu nouer certains contacts qui ont facilité la rédaction de cet article, puisque évidemment je me suis tourner vers eux.
Alors, il y a aussi d'autres pays de la zone hein, qui sont très touchés, le Malawi, le Zimbabwe.
Oui, alors le Zimbabwe partage avec le Malawi le fleuve Zambèze et donc tire aussi son électricité des barrages. Et le Malawi est un cas, une situation aussi intéressante. Peut-être vous vous souvenez, l'année dernière, il y a eu ce cyclone Freddy qui a été extrêmement meurtrier, qui a provoqué vraiment des dégâts considérables pour ce pays. Et donc aujourd'hui, le Malawi est confronté à une sécheresse. Alors il y a à la fois des sécheresses et des inondations. Mais je pense que ce qui est vraiment frappant, c'est que depuis une dizaine d'années, la récurrence de ces catastrophes naturelles, donc cette succession de sécheresses et d'inondations catastrophiques, se répète quasiment sans répit. Ce qui fait que des pays comme le Malawi et la Zambie, je veux dire, n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Enfin, l'expression n'est pas forcément la bonne, mais voilà.
Parce que justement, de l'eau là-bas, il n'y en a pas.
Oui.
Mais c'est vrai que ce sont des pays, on voit bien, qui sont confrontés et empêchés, comme vous le disiez, à cause du changement climatique. C'est extrêmement clair. Simon Rosé, vous vouliez réagir ?
Oui, puis se pose toute la question de l'adaptation, puisque ce sont des pays qui sont confrontés à des catastrophes sur catastrophes, qui mettent leurs moyens pour justement, les peu de moyens dont ils disposent, pour justement essayer de s'occuper de ces catastrophes. Mais à côté, du coup, il n'y a plus d'argent pour faire l'adaptation, pour être plus résilient face à ces catastrophes qui vont revenir et revenir. Et c'est tout l'enjeu qu'il va y avoir, et dont on parlait lors de la COP28 avec la création du fonds pertes et préjudices, qui sont censés normalement venir accompagner ces pays qui font face un peu à cette double-là. Et on va arriver dans les discussions intéressantes, parce que si je ne me trompe pas, la première réunion du conseil d'administration de ce nouveau fonds va se tenir d'ici la fin du mois d'avril, et on va rentrer dans le dur vraiment du fléchage des fonds. On en revient également sur l'attribution. Est-ce que telle catastrophe est due ou pas au réchauffement climatique? Comment on le détermine? Est-ce que c'est un tel pays, une telle catastrophe est éligible à recevoir de l'argent? Combien de ce fonds qui est en parallèle très peu doté, hein, on a à peine plus de 700 millions de dollars pour l'instant fléchés dessus. Donc on va rentrer vraiment dans cette année dans l'opérationnalisation de ce fonds pertes et préjudices. Il va y avoir des discussions très intéressantes à suivre dans les mois à venir.
Oui, parce que cette sécheresse est aussi due à un phénomène naturel qui s'appelle El Niño, qui est une oscillation autour des eaux du Pacifique qui crée des sécheresses dans cette zone.
Oui, oui, il y a une conjonction à la fois d'une tendance de long terme qui est celle du réchauffement et de phénomènes plus périodiques comme El Niño. Mais pour revenir sur la question de l'adaptation, je pense qu'il faut avoir en tête que ces pays n'ont absolument pas contribué au réchauffement climatique et que donc le Malawi, comme la Zambie, comme la plupart des pays africains, se pose la question pour nous de la justice climatique. Et qu'effectivement, il n'est pas juste que des pays comme le Malawi et la Zambie, qui ont des besoins considérables de développement en matière d'éducation, de santé, consacrer une part importante de leurs revenus à l'adaptation au changement climatique. Simplement un exemple, la catastrophe l'an dernier du Malawi, il y a eu donc un appel de fonds international pour venir en aide aux centaines de milliers de personnes qui ont été touchées. Il a été simplement abondé à hauteur de 50% des besoins. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce que l'on devrait faire dans les pays du Nord qui sommes responsables du réchauffement climatique.
Ce sont des discussions qu'on va également avoir tout au long de l'année, puisque il va y avoir la COP29, ce qui va se tenir en Azerbaïdjan, à Bakou, qui sera une COP financière, si on peut le dire comme ça. On ne reviendra pas trop sur les enjeux d'atténuation qui ont été tranchés à Dubaï lors de la précédente COP. Et là encore, normalement, si tout se passe bien, il y a des choses qui devraient se passer cette année pour avancer dans le bon sens.
En tout cas, il y a beaucoup d'attentes, ça c'est certain, sur les enjeux financiers, et cela ne va faire qu'augmenter. Oui,
je pense que ça pose aussi le problème de viabilité de construction de barrages électriques. Je me suis un peu penchée sur cette question. En Chine, par exemple, l'année dernière, la production de hydroélectrique a beaucoup, beaucoup baissé en raison de variations de quantité d'eau, justement, dans les barrages.
Oui, il y a des études qui commencent à sortir et à s'interroger sur, en effet, la rentabilité de ces barrages à terme avec les enjeux de sécheresse et même d'inondation, hein, parce que quand il y a beaucoup trop d'eau pour ces barrages, c'est aussi compliqué de fonctionner. Restons en Zambie, mais en musique cette fois, avec Makitu et son titre Tiki Taka. Tiki Taka.
barefoot on this one. 104, Mag 4-4, drums, yo uno. Talk to him. Ka crush busy calling start burada. Covid man a lemon a money love. Alo tafia mpule e kada zanaza. Chikola boko ndwani na mulaza. Shingila baba shidi sheshesi. Kaka ime posha la pwile e kefi. Es no kolo suti ya kuteki. Foshile ingila febale mfuwa ya kuteki. Legendi kalusha the great. Na mafanzi tabalusa dipeti. Ndombolo chikanga mbushe leleti. That's why kumbe chapo tetulu sebeti. Muma nylon covers. How can they delay that the Mylon brothers? Kabubu na mawela, ulu tumi na mafela. King Buga na uno pawulila fetuela.
Fibi ongo te fia simpondela. So jombo kwa tela simpondela. Kate chipes na patalinga ninja. She likes to fit in kapa kalinga linga. Awilo,
awilo lo dandi kalevi. Na kanda bongo na pepe kale. Agusi mavele loketo ya mbongo. Pumbumi na dansi batambo mulongo.
Yamba dawango lupungu ni son yes. Sefin to look on Gulapa Konga, you know, they pay as far as the song goes. The Mamule Menama Manas Mikongos.
Galagata Pamikoshi Afiluana, Chila Foyo Kupuko Mupando Afiluani. Senda, just be careful what you wish for. I can't even brag. What the hell am I rich for?
Music out for entertainment. Mr. Ngulube, Spark Smiling, Lawrence Mulenda,
Mr. Kelvin Countdown on this one.
Biggie Man Ishina Tash,
Oscar Oskido,
Boss Firoz,
Mose Dima,
Lulu Daka, Bayoka,
Mind Boy,
Abinali Sigaona.
Le Zambien Makitu sur RFI, vous écoutez le nouveau rendez-vous de C'est pas du vent, le club de C'est pas du vent qui donne la parole aux journalistes qui traitent des sujets environnementaux sur RFI et ailleurs. Chaque semaine, nous mettons aussi en avant un vidéaste amateur du réseau Hip-Hop. Hip-Hop pour Petites Ondes Participatives, un réseau qui recueille des témoignages pour humaniser le débat. C'est une chronique de Caroline Fillette.
Bonjour, je suis Mamad Mokhtar Diallo, je suis en Guinée, dans la ville de l'Abbé, et je suis hip-hopper. C'est moi qui ai réalisé le film Survivre parmi les déchets. Je vous laisse découvrir le film, après on reparle.
Dans cette vidéo que vous avez tournée, on suit Mamadou, âgé à peine d'une dizaine d'années, gravir quasi quotidiennement des montagnes et des montagnes de déchets. Alors sans protection, le petit garçon ramasse du plastique et inhale des nuages impressionnants de fumée toxique qui se dégagent de la décharge.
Je m'appelle Mamadou Aliou Diallo, je suis élève de 5e année. Je travaille dans les décharges depuis 3 ans. Je viens travailler ici parce que j'ai perdu mes deux parents. Pour venir dans la décharge après les cours, je marche pendant environ 2 km. Quand je quitte l'école, je viens ici pour ramasser des bouteilles et des sachets plastiques pour les revendre et acheter à manger ainsi que des fournitures scolaires. Je viens ici 6 jours par semaine. Comme les sachets plastiques ne sont pas bons pour la nature, on vient ici pour les ramasser et les revendre. Si je travaille très dur, je peux gagner 10 000 francs guinéens, 1 euro, ou 20 000 francs guinéens, 2 euros. Les saletés qu'on jette ici et la fumée qui se dégage de la décharge me font parfois tomber malade pendant 2-3 jours. C'est tellement fréquent que je ne compte même plus le nombre de fois où ça m'est arrivé. Toutes les fois où je suis tombée malade, je n'ai eu personne pour me soutenir. Mon ami Ousmane, avec lequel je travaillais ici, est décédé l'année dernière des suites d'une maladie. Bien que je gagne ma vie dans ces décharges, j'invite tout le monde à arrêter de jeter ses ordures n'importe comment, parce que ça rend la population malade, tarit les fleuves et propage des maladies dans la nature, ce qui fait tomber les gens malades pendant des jours. Bonjour Mamadou.
Bonjour.
Comment avez-vous eu l'idée de faire ce sujet ?
Alors, l'idée est partie d'un constat. Dans la ville où je suis, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue et qui survivent très difficilement. Ils ramassent des objets plastiques, c'est-à-dire des sachets et des bouteilles en plastique, et ils essaient de revendre ça pour survivre. Et l'idée est partie de là. Je me suis dit que les enfants-là sont en train de lutter contre la dégradation de la nature sans se rendre compte, mais ça va leur permettre aussi de gagner leur vie. Donc l'idée est partie de là. Et c'est comme ça qu'on a quand même réalisé le film.
Cet enfant du reportage, Mamadou Aliou Diallo, n'est malheureusement pas un cas isolé.
Non, pas du tout. C'est beaucoup d'enfants. D'ailleurs, c'est aux vies aussi de tout le monde qu'on voit ces enfants-là, mais que personne ne porte attention à eux. Donc ce n'est pas un cas isolé parce qu'il a ses amis aussi qui traversent la même situation. Donc c'est un cas qui n'est pas isolé.
Les conséquences sanitaires pour ces enfants ne sont pas anodines du tout, hein, au vu de ce reportage.
Ah non, pas du tout. Les conséquences sanitaires ne sont pas anodines parce que déjà avec le témoignage de Mamadou Aliou, il a dit dans le témoignage qu'il a perdu son ami avec lequel il ramassait ces objets-là et que lui-même, il arrive des fois où il tombait malade, donc ce n'était pas évident pour lui. Et jusqu'à présent, ces enfants-là sont dans ces déchets-là et traversent vraiment des choses qui sont atroces.
Vous avez reçu un prix pour ce film. Est-ce que ça a eu des conséquences ?
Oui, le prix a eu des conséquences à partir du moment où le prix a permis à Mamadou Aliou déjà de sortir de ces déchets-là, et lui et sa famille. Et actuellement, il a repris les cours à l'école et sa famille est prise en charge par la communauté de ma ville où je suis. Et ensuite, c'est un prix aussi qui m'a permis personnellement de réaliser un film court-métrage sur la disparition des fleuves de mon enfance. Donc le tournage est actuellement en cours.
Merci beaucoup Mamadou.
Merci à vous aussi.
Merci Caroline et merci à Gaëlle Flaugère qui anime la communauté hip-hop et à Max Ball de RFI Planète Radio. Alors, tout le monde écoutait très attentivement. Désolé pour les auditeurs, hein, en effet, nous sommes à la radio, donc vous ne voyez pas le film, mais nous mettrons les liens sur la page de C'est pas du vent sur RFI.fr. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a publié un rapport inquiétant sur les déchets, hein, le volume des déchets qui atteint déjà 2,3 milliards de tonnes dans le monde devrait augmenter de 2/3 d'ici 2050. Donc le PNUE conclut qu'il y a urgence à commencer une réduction drastique des détritus pour éviter le scénario du pire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Igor Strauss ?
Il y a beaucoup de pays, de villes, Lagos notamment, ou l'Éthiopie récemment, qui ont interdit par exemple les sachets plastiques. Donc ça part dans le bon sens. Après, la vraie question, c'est, vous savez très bien qu'en Afrique, notamment, on boit de l'eau en sachet. Comment fait-on pour substituer ces sachets quand il n'y a pas l'accès à l'eau potable ? Donc ça pose plein de questions au niveau des infrastructures derrière. Limiter la pollution, c'est très bien, mais quand il n'y a pas d'autres alternatives, comment fait-on ? Puis après, vous avez été sur le continent il y a 10-15 ans, on buvait nos sodas préférés dans des bouteilles en verre. Maintenant, c'est des bouteilles en plastique. Et là aussi, c'est tout le coup de la production. On nous fait croire que, et même les producteurs locaux qui disent que voilà, je produis dans une bouteille en plastique parce que sinon, je peux pas concurrencer ce qui vient de Chine ou ce qui vient d'ailleurs de ces grandes multinationales. Sauf que ces coûts de production ne prennent pas en compte les coûts sur l'environnement. Si on obligeait une multinationale à aller récupérer ces bouteilles en plastique qui sont dans les rivières, dans les décharges, ça coûterait beaucoup plus cher. Et surtout, qu'en faire si ces multinationales devaient stocker dans leurs usines, parce qu'on peut rien en faire. Le sachet plastique, une fois qu'il est utilisé, on peut rien en faire.
Mais les bouteilles en plastique, on peut les recycler.
On peut les recycler. Mais ça pose tout un tas de problèmes et on ment sur le coût de fabrication de ces produits. C'est ça que je veux dire. C'est que,
oui, mais nous en parlions dans un reportage.
Une bouteille en plastique, ça ne revient pas moins cher, c'est faux.
Nous en parlions dans un reportage à Abidjan la semaine dernière dans C'est pas du vent. Simon Rosé, il y a un traité en cours.
Oui, qui avait été validé justement à Nairobi par le PNUE, l'idée de faire un traité plastique international où on est en pleine négociation. Là, il y a le troisième tour de négociation qui va s'ouvrir fin avril. L'objectif, c'est d'avoir un texte d'ici la fin de l'année, mais toujours, ça achoppe sur cette question De la production. C'est bien beau de mettre des filières de recyclage, de retraitement, de l'économie circulaire, mais si on continue, les usines continuent de pondre du plastique à longueur de journée comme elles le font aujourd'hui, on n'en sortira pas et on est en plein dans ce risque du rapport du PNUE que vous mentionnez, de vraiment de submersion sous une planète de déchets. C'est un peu le sous-texte. Si rien n'est fait, notamment dans pas mal de capitales africaines, ces filières n'existent pas et le robinet n'est pas éteint. Donc ça se déverse.
Ouais. Je rappelle que Coca-Cola, c'est 130 milliards de bouteilles de plastique produites chaque année, Yang Mei.
Eh bien, typiquement, le robinet en Chine, ça coule à flot.
Comme le robinet des déchets.
Le robinet des déchets plastiques, avec le développement de e-commerce et avec les ventes emportées alimentaires, on voit des cartons, des plastiques partout. Le gouvernement publie des décrets en disant, dans la mesure de possible, il faut éviter d'utiliser les sachets en plastique, tout ça, mais il y a absolument aucune interdiction. On commence à trier les déchets, mais on ne sait pas les déchetteries, où ils sont partis. Et il manque vraiment de volonté politique sur une chose, par exemple, les sacs en plastique. Beaucoup de pays africains ont interdit les sacs en plastique, mais en Chine, même ça, on n'arrive pas à le faire.
Simon ?
Mais ça me fait penser d'ailleurs, en élargissant la question des déchets, en sortant un peu des plastiques, les déchets alimentaires, le food waste également, il y a le PNUE, pour revenir au programme des Nations Unies sur l'environnement, publie un rapport justement en cette fin mars. C'est à peu près 1 milliard de repas qui sont gâchés, qui sont jetés chaque jour sur la planète. Et ce n'est pas qu'un problème qu'on ne trouve que dans les pays riches. En gros, la moyenne entre un pays riche et un pays pauvre, elle varie de 7 kilos. Donc c'est pas tant ça, parce que cette problématique, elle existe également dans les pays où il fait chaud, où on mange souvent de la nourriture qui est fraîche, mais qui est pourrie. Et les chiffres sont assez colossaux. Je crois que c'est un peu moins d'un tiers des surfaces agricoles mondiales qui servent en fait à produire la nourriture qui est jetée, in fine. C'est 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc il y a une vraie question, au-delà du plastique également, sur la réflexion des déchets alimentaires qui est réelle.
RFI émet en 15 langues et figurez-vous que dans chaque langue, il y a un référent environnement. Et évidemment, nous leur donnons la parole dans C'est pas du vent.
RFI. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde.
Es la migración más importante de insectos.
Barca mărsai ce căsă în ciua.
C'est pas du vent.
Добрый день, вы слушаете подкасты международного французского радио RFI.
Yang Mei, vous êtes journaliste à la rédaction chinoise de RFI, nous l'avons déjà dit, et au service environnement. Et vous allez aujourd'hui nous parler d'un projet de construction de barrage qui embarrasse bien les autorités chinoises.
Oui, il faut savoir que la Chine est de loin le pays qui a le plus de centrales hydroélectriques dans le monde. Mais à force de construire les barrages, les effets sur l'environnement commencent à se faire sentir. Des voix se lèvent en Chine pour questionner leur bien fondé. Et justement, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui est le barrage de Kangtrou, se situait dans la région tibétaine. Or, les Tibétains, on sait qu'ils sont très persécutés en Chine et sont un peuple très attaché à leur environnement. Pour eux, les montagnes et les rivières sont sacrées. Et c'est donc dans ce contexte que la construction de ce barrage dans la région tibétaine a suscité beaucoup de protestations.
Alors, comme l'information est très verrouillée en Chine, comment est-ce que vous avez pu vérifier ces informations ?
Nous avons d'abord été alertés sur les réseaux sociaux à la fin du mois de février par les Tibétains en exil que des milliers de personnes ont manifesté dans le district de Tegu, district tibétain administré par la province de Sichuan. Et les Tibétains protestent contre les travaux de construction de barrages qui non seulement vont les obliger à quitter leur village, mais qui implique aussi l'inondation de plusieurs temples, dont certains datent de 13e et 14e siècle. J'ai aussi pu vérifier auprès des sources tibétaines fiables que plusieurs centaines de manifestants ont été arrêtés par la police suite à ces manifestations. D'ailleurs, le Sénat français et l'ambassadrice française des droits de l'homme a officiellement dénoncé la situation.
Alors, est-ce que c'est possible de savoir quand même quand les travaux vont commencer et si les temples tibétains vont vraiment être submergés ?
C'est là la difficulté. En fait, en tout, il y a une dizaine de barrages en projet sur le fleuve Tingsha et le fleuve au sable d'or, qui est le cours supérieur du Yangtze. Un plan a été décidé au début des années 2000, mais pour des raisons diverses, les problèmes de sécurité entre autres, les travaux ont tardé à démarrer. À un moment donné, on parlait même d'abandonner ces centrales hydroélectriques. Mais le vent a visiblement tourné. La relance économique et le besoin de verdir les ressources énergétiques ont probablement poussé le gouvernement à accélérer le rythme. J'ai pu contacter un géologue chinois dans la province de Sichuan, qui est un expert reconnu sur cette zone géographique. Il était auparavant contre la construction des barrages sur ce fleuve, mais aujourd'hui son discours a changé. Il a confirmé le lancement des travaux sans donner de date et il a aussi assuré que les anciens temples tibétains ne seront pas inondés. Puis il m'a rappelé le lendemain pour me demander de ne pas divulguer la conversation car il a été inquiété par les autorités. Alors, résultat, je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions sur la crédibilité de ses paroles, surtout concernant les temples tibétains. Nous allons d'ailleurs le vérifier, surveiller de près avec le service Check News d'RFI les niveaux d'eau du futur barrage.
Alors l'impact environnemental de ce futur barrage est-il malgré tout prévisible ?
Il y a eu déjà toute une littérature en Occident sur les effets négatifs des barrages, sur la biodiversité. Et à ceci s'ajoutent des risques de tremblements de terre et de glissements de terrain, car il s'agit de construire sur une zone très sensible. Et selon l'hydrologue chinois résidant actuellement en Allemagne, le docteur Wang Weilo, ce barrage va accentuer les risques géologiques. On l'écoute.
Les monts Hongguan, où se trouve le site du barrage, sont dans une zone sensible qui subit séismes et glissements de terrain fréquents. En 2018, au niveau du barrage Boluo, en aval du site, un gigantesque glissement de terrain a eu lieu, qui a obstrué le fleuve et a formé un barrage naturel. Et lorsque les digues du barrage ont lâché, au bout d'un mois, l'eau du fleuve s'est déversée sur 500 km. C'était la plus importante inondation depuis des siècles. La plupart des ponts sur le fleuve ont été détruits. En outre, depuis ces dernières années, les fleuves dans la province de Yunnan et du Sichuan souffrent déjà souvent de la sécheresse et les stations hydroélectriques ont du mal à fonctionner en raison de la rétention d'eau des barrages. Et enfin, ce que craignent les Tibétains, c'est aussi que la qualité de l'eau soit altérée.
Yang Mei, malgré ses inquiétudes, les autorités chinoises s'entêtent à poursuivre le projet.
Oui, car selon le docteur Wang Weilo, l'objectif est d'une part de construire un grand barrage en amont pour réguler les flux d'eau pour les barrages en aval. Et d'autre part, ce barrage pourrait servir de point de départ pour un autre projet controversé, la ligne de l'Ouest, qui est un des grands projets de canalisation pour transférer de l'eau du sud vers le nord. Et d'ailleurs, à l'avenir, ce projet pourrait servir, concerner À l'avenir, ce projet pourrait concerner certains fleuves internationaux, comme le Mékong en Asie du Sud-Est et le fleuve Brahmapoutre en Inde.
C'est évidemment un sujet que vous allez suivre sur RFI. Dans un instant, nous partirons grâce au club RFI en République démocratique du Congo, mais d'abord un peu de bonne humeur avec le Marocain Sam Gabi sur RFI. سامي قلبي عدل
صعب دير
Le Marocain Sam Galbi et son titre Dakchi Hani que vous retrouvez sur la playlist de RFI, playlist que vous pouvez retrouver sur vos plateformes préférées.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Et c'est maintenant l'heure de la chronique des clubs RFI, les clubs d'auditeurs qui s'engagent spontanément dans des actions, notamment dans le domaine de l'environnement. Il y a quand même des clubs d'auditeurs de RFI dans 70 pays. Bonjour Audrey Yatoni.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes chargée de coordonner les projets des clubs RFI et cette semaine, vous nous emmenez en République démocratique du Congo.
Oui, précisément à Malindé, qui est située dans le territoire Fizi au sud du Kivu. C'est là que la radio Amani FM est née, en synergie entre différentes composantes des clubs RFI, qui regroupent la ville d'Uvira, les deux camps de réfugiés de Lucenda et de Mulongwe, ainsi que notre association partenaire des femmes rurales amies de la paix et du développement.
Alors la radio Amani, c'est une station de radio rurale qui émet quelques heures par jour.
Exactement, elle émet 4 heures par jour sur un rayon de 37 km et sa diffusion s'étend jusqu'à des zones très reculées.
Alors la ligne éditoriale, c'est de tenter modestement évidemment d'apaiser les relations sociales dans la zone.
Oui, tout à fait. Amani signifie paix en Swahili et dans une zone déstabilisée par la guerre et les conflits. Il est actuellement urgent de rassembler les agriculteurs, les pêcheurs, les agronomes et les experts fonciers autour d'un objectif commun, la préservation des sols comme garantie de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes justement en ligne avec Stanislas Wanga Kamangele, le président du club RFI Uvira et directeur de la radio Amani. Bonjour Stanislas, comment est-ce que vous résumeriez la ligne éditoriale de la radio Amani ?
La radio Amani, c'est une radio qui travaille pour la promotion de l'éducation à la paix, donc le vivre ensemble, mais aussi de la culture, de l'agriculture écologique dans la région, c'est-à-dire la promotion de l'agriculture écologique dans la région.
Est-ce que tu pourrais me citer quelques noms de programmes, s'il te plaît ?
Par exemple, dans le cas de l'environnement, nous avons des émissions comme Mazingira Yetu, Mazingira Nasisi. Mazingira Yetu veut dire notre environnement. Il y a aussi Mazingira Nasisi qui veut dire l'environnement et nous.
Il y a aussi une émission qui concerne, il me semble, les conflits fonciers sur la zone du territoire Fizi. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait en quoi cette émission permet de répondre aux enjeux environnementaux actuels ?
Les conflits fonciers peuvent d'une manière ou d'une autre être plus violents que l'on puisse imaginer. Et pourtant, la relation ou les liens qui pourraient exister entre les conflits fonciers et l'environnement, cette question n'est pas beaucoup plus étudiée par beaucoup de chercheurs. Pourtant, je prends un exemple. Deux personnes se disputent un champ. Celui qui se sentira peut-être menacé ou lésé dans ses droits, il pourra mettre du feu sur le champ pour détruire tout ce qui est à l'intérieur. Mais aussi, le feu qui n'est pas contrôlé peut avoir aussi des effets dévastateurs sur la brousse ou la forêt qui environne ou qui est aux alentours de ces champs-là qu'on est en train de se disputer. On peut avoir des effets aussi en faisant un déplacement massif des gens qui ont perdu leur terre, qui vont se déplacer. Et en se déplaçant, ils y vont sans beaucoup de moyens de subsistance. Ils peuvent maintenant s'en prendre à l'environnement et produire des effets. C'est pourquoi nous avons envisagé des émissions qui traitent des conflits fonciers et qui essaient un peu d'analyser tout ce que nous sommes en train de montrer là comme impact ou les liens qui pourraient être entre les conflits fonciers et l'environnement.
Et à travers votre radio, vous sensibilisez également à des méthodes agricoles qui préservent l'environnement ?
Les exemples que nous avons de plus concrets et que nous avons décriés sont que le fait d'utiliser le feu de brousse, le fait d'utiliser les fertilisants chimiques, donc les engrais dans les champs, ces pratiques sont à la base de l'improductivité du sol, mais aussi touchent et affectent négativement l'environnement. C'est ici où se situe l'importance et la volonté de la radio Amani de travailler sur l'introduction des pratiques agricoles, agroécologiques dans la région afin de permettre aux paysans de faire une agriculture durable.
Merci Stanislas d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Audrey, c'est moi qui vous remercie.
et la radio Amani à sa page Facebook et sa page Internet. Tous les liens seront sur la page de C'est pas du vent sur RFI.fr. Merci Audrey.
Merci Anne-Cécile.
Laurence Caramel, augmenter la production agricole en Afrique en impactant le moins possible l'environnement, c'est un sujet que vous traitez souvent dans le bassin du Congo, notamment en lien avec les enjeux de la déforestation.
Oui, parce que c'est tout l'enjeu de la lutte contre la déforestation. L'agriculture paysanne, cette agriculture sur brûlis, est un des principaux et le principal moteur de la déforestation, avec la coupe pour faire du bois énergie. Et évidemment, c'est la grande différence avec ce qui se passe en Amazonie ou même en Indonésie, où les grands acteurs de la déforestation sont des entreprises de l'agro-business. En Afrique, ce sont des familles, des petits paysans qui produisent avant tout pour se nourrir et qu'il faut accompagner effectivement pour modifier les pratiques.
Alors, je le disais en introduction de cette émission, RFI a un tout nouveau service environnement, 9 journalistes qui travaillent à plein temps sur cette thématique. Vous les entendez dans les journaux, vous en faites partie, Igor Strauss, vous rentrez d'Afrique du Sud et vous souhaitiez justement revenir sur l'une des plus graves crises de l'eau que ce pays a connue.
Alors, ça remonte, hein, c'est pas vraiment un sujet d'actualité, mais ça recoupe un petit peu ce que disait au début de cette émission Laurent, c'est-à-dire que on est sur un phénomène climatique El Niño qui a provoqué une grave sécheresse, 3 années de sécheresse au Cap entre 2015 et 2018. Du coup, évidemment, eh bien, des barrages qui ne font plus leur rôle, qui sont à sec, et d'énormes déficits d'eau. Alors au début, on demande, à partir de 2016, on demande à la population et aux agriculteurs une réduction de sa consommation d'eau de 20%. Pas d'effet palpable. En 2017, on tire un petit peu plus la sonnette d'alarme. On demande à la population, aux habitants et aux agriculteurs de diminuer la consommation, qui passe de 200 litres par jour à 87 litres. Les gens, un peu inconscients du danger, ne se prêtent pas au jeu. Il y a 30% à peine de la population qui va limiter sa consommation d'eau. Et puis, en janvier 2018, là, il y a le choc. Le point de non-retour est atteint, par du day zero. Le day zero, c'est le jour où, tout simplement, il n'y aura plus d'eau au robinet. Ce jour, il est déterminé. Ce sera le 13 mai 2018. Si rien n'est fait, c'est l'armée, annonce la maire de la ville, c'est l'armée qui prendra en charge la gestion l'eau en bouteille. Ça sera 25 litres par jour, ce qui est très peu. C'est la consternation évidemment chez les citoyens. Il faut des méthodes plus radicales. Et la suite, c'est Zaïd Badroudien, qui est le directeur du service eau assainissement de la ville de Cape Town, qui raconte.
Each household was limited to the amount of water that they are allowed to use.
Chaque ménage a dû limiter drastiquement sa consommation d'eau. Les gens avaient l'habitude de laver leur voiture. Certains ont des piscines, d'autres ont des jardins qu'ils arrosaient tous les jours. Il n'y avait aucune limite. Et donc, on a dû mettre en place des restrictions très sévères, dire aux gens de ne plus arroser leur jardin tous les jours et de le faire seulement certains jours, à certains horaires, d'arrêter de laver les voitures, de ne plus faire de lessive aussi souvent, de ne pas tirer la chasse d'eau à chaque fois. Il y avait un dicton qui disait « Si c'est marron, tire la chasse, mais si c'est jaune, laisse tomber ». Et tout le monde a compris qu'il fallait prendre sa douche dans une bassine pour réutiliser cette eau pour les toilettes. Et ce qui est surprenant, c'est que tous les habitants ont joué le jeu et ont changé de comportement. Ça nous a permis de baisser notre consommation de près de 50%. Et puis, la pluie est revenue, mais malgré cela, nous avons continué à dire aux gens qu'il fallait utiliser l'eau de façon responsable. Pour moi, c'est la meilleure façon de s'assurer un futur avec de l'eau. On rappelle tout le temps aux habitants de respecter l'eau et d'arrêter de penser qu'elle va continuer à tomber du ciel pour l'éternité, car ce n'est vraiment pas ce qui va se passer.
Une précision de taille, Igor. La piscine et les voitures, ça ne concerne évidemment pas tout le monde en Afrique du Sud.
Non, parce que vous savez qu'en Afrique du Sud, il y a de profondes inégalités, évidemment, entre les blancs et les noirs, vestiges de l'apartheid. Et évidemment, dans les townships du Cap, comme à Langa ou Kayelicha, il n'y a pas l'eau courante. Donc, cette gestion de l'eau, en fait, c'est ce qu'ils connaissent eux tous les jours. C'est leur quotidien. Mais quand on parle, de ce day zero, de la consommation globale de la ville dont font partie ces townships, elle a quand même diminué, donc, de 50%. Elle est passée de 1200 millions de litres par jour en 2015, quand tout allait bien, à 498 millions de litres, c'est considérable. Donc la pluie est revenue, vous l'avez bien compris, on a évité ce désert, mais ce qui est voilà, important, c'est que, eh bien, c'est cette prise de conscience citoyenne qui continue à économiser l'eau, à être sobre finalement. C'est plutôt positif.
Et c'est un modèle qui est inspirant, puisqu'il y a beaucoup de villes dans le monde qui risquent de connaître ou qui approchent de ce D0, le Caire, Mexico, Miami. Donc ce modèle de Cape Town est intéressant. Merci.
Il pourra se dupliquer, exactement.
Merci de l'avoir mis en avant. Simon Rosé, on arrive à la fin de cette émission, mais on a le temps encore de parler de ce sujet qui vous tient à cœur. Je rappelle que vous êtes le chef du service environnement de RFI et vous souhaitiez revenir sur ce sujet qui prend de l'importance et dont nous allons parler dans les jours qui viennent, l'exploitation minière des fonds marins.
Oui, c'est un dossier qui prend de plus en plus d'importance et qui, à mes yeux, concentre beaucoup de problématiques. En gros, il y a des ressources en minéraux, en matériaux, au fond des océans qui sont encore préservées. On parle de cobalt, de manganèse, de nickel, présentés par ceux qui veulent aller les chercher comme essentiels. On ne peut pas faire sans pour la transition énergétique, pour construire les éoliennes, pour les rotors d'éoliennes, pour les batteries.
Les énergies renouvelables, les voitures électriques.
Le problème, c'est que c'est au fond de l'océan. Notamment, là, on parle de la zone de Clarion-Clipperton qui est dans le Pacifique, à plusieurs milliers de mètres de profondeur, des zones qui sont encore préservées relativement de l'activité humaine. Bien sûr, on trouve des sacs plastiques au fond, mais... Et il y a tout un enjeu de savoir est-ce qu'il faut aller miner là-bas ou pas. Et il y a une instance de l'ONU qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, qui n'est pas la plus connue, qui en fait un peu la main là-dessus. Et depuis 3-4 ans, il y a des débats de plus en plus intenses là-bas pour savoir si est-ce qu'on va commencer à accorder des premiers permis d'exploitation à des sociétés minières privées pour le faire. Et c'est un enjeu scientifique également, puisqu'on n'a pas vraiment de données sur les conséquences de cette exploitation. Les fonds marins sont un gros réservoir de carbone, donc aller gratter là-bas pour aller chercher ces nodules polymétalliques, comme on les appelle, donc ces boules de manganèse, de nickel, de cobalt, c'est pas sans conséquences sur les fonds marins, mais également sur toute la colonne d'eau qu'il y a au-dessus. Et ce sont en termes de biodiversité, ce sont des choses qui sont assez mal étudiées, mais il y a quand même un gros mouvement pour y aller. À l'initiative, bizarrement, d'un petit état du Pacifique, Nauru, qui a mandaté une compagnie canadienne qui s'appelle The Metals Company pour aller y chercher. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de code minier aujourd'hui qui régule toutes ces activités-là. Donc, c'est un peu coincé. Ce sont les discussions qui, en ce moment, donc à Kingston, en Jamaïque, où se trouve le siège de l'AIFM. Et en réponse à cela, il y a un mouvement international qui se lance pour appeler un moratoire. Donc là, il y a 25 pays, bizarrement, entre guillemets, menés par la France, qui est vraiment, pour le coup, très engagé vers une interdiction de ces pratiques. Et on est vraiment sur ce point de bascule où on peut encore empêcher une activité industrielle délétère, puisque même si on c'est pas très bien étudié les fonds marins, on sait que ça va pas être bon, et on est à ce point de bascule. Voilà.
Voilà, et c'est donc une réunion critique que vous suivrez évidemment sur RFI. Merci à tous d'avoir participé à ce premier club de C'est pas du vent. Chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir par mail ou sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous pensez de ce nouveau rendez-vous. Merci à Caroline Filliette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.